nos invités. À tout de suite.
Oui. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée.
C'est la suite de notre enquête sur la privatisation de la Française des Jeux. Êtes-vous prêt à acheter des actions en majorité? Vous dites non, hein, plus de 77% sur Twitter et 92% sur Facebook avec des messages au moins qui sont clairs. Coquemont nous dit « Je ne participerai pas au démantèlement de mon pays ». Algeria nous dit « Drôle de question, la Française des Jeux nous appartient ». C'est comme si celui qui a volé votre voiture vous proposait de lui racheter le rétro en vous disant que vous pourrez en tirer le bénéfice. Vous avez dit « Pigeon ». Point d'interrogation. Oui. Patrick.
Non, c'est vrai. Bon, vous êtes majoritairement, en dehors du fait que est-ce que vous allez acheter ou pas des actions, globalement, beaucoup disent oui, on vend. Bah alors là, ils vous rejoignent, Henri Sterdignac, en disant on vend les bijoux de famille. C'était une réserve, en quelque sorte, pour l'État. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Ferkan Ziari?
C'est un argument qui est un peu fallacieux, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'un État n'a pas besoin d'être propriétaire d'une entreprise pour s'accaparer les produits de cette entreprise. Il a l'outil fiscal, il a la fiscalité, il a les impôts. Après la privatisation, il continuera à percevoir des impôts. Donc la question des recettes fiscales est à mon sens non pertinente. Non, ce qui m'intéresse moi, c'est encore une fois les incitations qui pèsent sur une entreprise pour qu'elle se montre la plus productive possible, la plus performante possible. Mmh. Et on sait aujourd'hui qu'une entreprise privée tend à être plus productive qu'une entreprise publique. Et donc cela justifie, je crois, d'étendre le régime de la privatisation partout où on le peut, à condition qu'on se place dans un contexte de concurrence authentique. Et c'est là où il y a un problème, c'est que la FDJ va conserver son monopole. On est donc là dans une espèce capitalisme corrompu.
Ça ne va pas. Hein,
ça, c'est complètement miracle. Si demain j'ai envie de concurrencer la FDJ, pourquoi on va m'interdire de le faire?
Ça, on ne pourra pas le faire parce qu'il faut pas. Il faut rappeler que l'État garantit le monopole de la FDJ pendant 25 ans et que la FDJ va verser 380 millions à l'État pour racheter, pour garantir ce monopole. Donc le monopole est garanti pour la période à venir. Donc c'est un point important. Ensuite, on peut regarder le bilan d'un certain nombre de privatisation, ça a été catastrophique pour l'ensemble de l'industrie française. Il y a un grand nombre d'entreprises françaises industrielles qui ont été rachetées par l'étranger, démantelées. C'est pas un modèle.
Alors, vous pensez à quelles entreprises, Henri Sterdignac?
À Pechiney, Alstom, toutes ces entreprises industrielles qui ont été, qui ont disparu lorsque il n'y a pas eu une politique industrielle et le soutien nécessaire. Alors maintenant, tout dépend, bien sûr. On vend des bijoux de famille. Le problème, c'est qu'actuellement, les actions qu'on vend, ça rapporte à l'État 100 millions par an. L'État, actuellement, au début, il avait été question d'une vente à 1 milliard, ce qui était vraiment peu. Là, l'État, heureusement, s'est un peu ressaisi. Il est question maintenant d'une vente à 2 milliards. Donc, a priori, si on compare 100 millions et 2 milliards, c'est un placement dont la rentabilité est de l'ordre de 5%. Donc, naturellement, ça va attirer quelques...
C'est pour ça que vous pensez que ça va être un grand
succès populaire. Je pense que ça va attirer des gens. Naturellement, il n'y aura pas 100% de gens qui vont acheter. Mais il suffit que 5% des Français achètent pour que ça marche. Mais d'un autre côté, il faut se rappeler que les petits porteurs, comme on dit, ont été, disons, ruinés, si on peut dire, par Orange, par EDF, par Eurotunnel, par Walt Disney. Et donc, il faut bien qu'ils soient conscients qu'il y a un risque important. Par exemple, on peut très bien imaginer...
On peut très bien imaginer
qu'un jour, effectivement, Bruxelles nous impose d'ouvrir et qu'à ce moment-là, la rentabilité va disparaître. C'est un risque politique. Le risque est surtout politique parce que l'entreprise actuellement... Pour dire la vérité, elle est extrêmement bien gérée par les gens qui la gèrent.
Oui. Non, mais ça, c'est vrai, là, je vais donner raison à M. Sterdignac et je suis même ému que M. Sterdignac reconnaisse le caractère risqué de l'investissement. Lui qui n'arrête pas de traiter les actionnaires de parasites qui s'enrichissent de manière non méritée. Tout investissement est risqué. Ouais. Donc, en effet, si demain on ouvre la FDJ à la concurrence, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il y a des risques de marché qu'on ne peut pas anticiper.
Est-ce qu'il pourrait y avoir un procès, ou une peut-être pas un procès, mais en tout cas une action menée par, par Bruxelles pour dire non, vous n'avez pas cette clause. Écoutez, elle est anti-concurrentielle.
Je ne suis pas spécialiste en droit européen, là, mais c'est plausible. Aujourd'hui, il y a des traités qui organisent en effet la liberté d'entreprendre.
Mais ça, ce serait dingue quand même.
La liberté de concurrence. Et si on observe ces principes avec rigueur, ce monopole n'a aucune raison d'être si on adhère à la liberté d'entreprendre, à la libre concurrence.
C'est pour ça que le monopole a une raison d'être et qu'il faut le rappeler. La raison de ce monopole, c'est qu'effectivement, le jeu, c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'un certain nombre de personnes peuvent avoir une induction,
en ligne qui sont déjà
avoir une induction au jeu. C'est dangereux parce qu'il faut éviter que l'entreprise développe des jeux trop intéressants qui attirent les jeunes. Et c'est dangereux parce qu'il faut éviter que l'entreprise développe des jeux qui permettent de recevoir les prix de façon anonyme parce que ça favorise le blanchiment d'argent sale.
Cécile.
Et donc, c'est ça justifie la position de la France. Ça doit rester contrôlé. D'ailleurs, il va y avoir une agence nationale du jeu. Maintenant, les petits porteurs doivent évaluer le risque.
Allez, on va au standard.
Antoine est avec nous, il nous appelle de Toulouse. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Bienvenue sur Sud Radio.
Oui, bonjour. En premier lieu, l'analyse de M. Sterdignac me paraît tout à fait fondée. Alors, une curiosité historique, la mise sur le marché intervient 90 ans pratiquement jour pour jour après le jeudi noir. Bon, ça c'est pour ceux qui aiment l'histoire.
Oula, oui.
Voilà, une petite analogie historique, de temps en temps, ça fait du bien.
C'est vrai.
Alors moi, je lis dans la presse patrimoniale les annonces invitant à la mise sur le marché. Premier opérateur historique, 3,5 milliards d'euros reversés aux collectivités, 5% de croissance. Mais si la mariée est si belle, pourquoi l'État ne la garde-t-il pas pour lui ? Quand une bonne affaire m'est proposée, la première question qui me vient à l'esprit, c'est si c'est si bien que ça, pourquoi vous vendez ? Ensuite, je vous rappelle qu'il y a en France 40 millions de foyers fiscaux, il y a 5 millions d'actionnaires dont beaucoup le sont via leur plan épargne entreprise, donc les vrais investisseurs actifs sont 1 million et demi de personnes. Donc on voit bien que c'est un tout petit segment de la population qui est visé, bien évidemment. Moi qui suis amateur d'actions, c'est mon métier depuis des années, je ne mettrai pas un euro dans cette privatisation pour une raison très simple.
Alors que c'est vrai, vous avez fait parfois des démonstrations sur notre antenne d'actionnaires.
Oui, moi, je vais vous dire qu'actuellement, sur le marché, il y a d'autres opportunités d'investissement qui me paraissent encore plus intéressantes. Je vous donnerai trois idées d'investissement. Trois titres que je viens d'acheter. Titres que je viens d'acheter. Je viens d'acheter Thales, mammouth du CAC 40. Renault, mammouth du CAC 40. Et Publicis, mammouth du CAC 40.
Renault, ça a un peu chuté l'autre jour.
Mais justement, j'achète à 47 euros et j'allégerai entre 52 et 54. Quant à la Française des Jeux, regardez ce qui va se passer dans 12 ou 18 mois, quand le capital aurait été reclassé, quand les petits porteurs, parce qu'il n'y a que 100 millions de titres mis sur le marché, auront revendu, peut-être avec un peu de profit, le capital, les actions seront revenues dans ce qu'on appelle les grosses mains, et là, comme le dit M. Sterdignac, là, quand les gros investisseurs, quand les vrais capitalistes, quand les vrais opportunistes seront rentrés, vous verrez ce qui va se passer.
Ah bon, Fergan Azeri, qu'est-ce que vous répondez
Je trouve l'argument un peu étrange, c'est-à-dire que aucun investisseur aujourd'hui attend qu'une entreprise soit en mauvaise santé pour se décider à la vendre. On vend une entreprise parce qu'on se dit qu'on peut en tirer un bon prix, parce que elle a une bonne réputation,
c'est pour boucler
une belle perspective.
Un peu le budget, en fait.
Oui, bien sûr. Mais vous êtes propriétaire d'une maison. Je veux dire, vous voulez que vendre dans un contexte de croissance, vous n'allez pas attendre que votre maison chute et perd de sa valeur pour pouvoir la commercialiser. Donc je ne comprends pas très bien l'argument qui consiste à déplorer que l'État vende des biens qui rapportent. Ça fait partie de l'activité de tout investisseur. En revanche, c'est vrai que, encore une fois, il y a un risque qu'il ne faut pas négliger. Aujourd'hui, on nous vend une entreprise qui reste en situation de monopole. Pour moi, ce monopole est immoral. Il n'a pas de raison d'être, parce que si demain on a envie de concurrencer la FDJ pour proposer un meilleur service, je ne vois pas pourquoi on l'interdit. C'est vrai que ça pose une question. Ce monopole va-t-il durer? S'il ne dure pas, on aura quelque part floué un peu les épargnants en vendant à un risque.
Henri Sterdignac va vous répondre, mais cela dit, juste une petite parenthèse au passage, le monopole a déjà volé en éclats quand on voit l'ensemble en fait, des jeux en ligne
vous
à
avez
partir
tout
de
à
sites
raison.
À l'étranger.
Vous avez tout à fait. C'est là où il y a une grosse hypocrisie. C'est-à-dire que l'industrie du jeu en ligne aujourd'hui est un secteur concurrentiel de manière générale. Alors pourquoi la FDJ serait-elle exemptée de cette pression concurrentielle? Monsieur Sterdignac évoque des considérations d'intérêt général. Moi, je pense que l'État est tout simplement une organisation qui qui déteste la concurrence et qui veut s'accaparer des profits qui ne l'auraient pas dans un contexte concurrentiel. Ouais. Et c'est simplement du capitalisme de connivence.
Henri Sterniak, oui.
D'abord, l'État donc vend une entreprise qui lui rapporte grosso modo 5% par an, alors que l'État aujourd'hui est en situation de s'endetter à des taux d'intérêt nuls. Et donc, du point de vue de l'État, effectivement, c'est une opération complètement stupide. Et de temps en temps, il faudrait que l'État ait un peu le sens du patrimoine.
L'État a besoin de cash aujourd'hui,
l'État
c'est pour ça.
L'État n'a absolument pas besoin de cash. Parce que vous pouvez aujourd'hui vous endetter, je le répète, à 0% sur les marchés financiers avec des gens qui sont tout à fait disposés à vous, à vous prêter à 0%. Donc, du point de vue de l'État, effectivement, cette vente, c'est tout à fait une vente de bijoux de famille. Et D'autre part, il y a un grand principe. Certaines activités doivent rester des monopoles, car ça doit être une activité socialement contrôlée, d'une façon ou d'une autre. Et donc, il est légitime qu'une opération comme les jeux, qui soit à la fois risquée et dans lequel il y a également, il ne faut pas l'oublier, des risques importants d'escroquerie. Il y a beaucoup d'escroqueries sur Internet. Il est important que ce soit un monopole. Et d'autre part, le risque que courent les petits porteurs, c'est un risque politique. Et le problème, c'est est-ce qu'ils sont prêts à prendre ce risque politique.
Mais écoutez, je pense que l'argument du risque, effectivement, il y a un risque, mais toute activité, tout investissement est risqué. S'il fallait restreindre toute activité économique au motif qu'elle est risquée, on ne ferait plus rien. Donc, je pense qu'il faut arrêter avec ce paternalisme et aider les gens à être responsables, à les aider à évaluer les risques, et ensuite, ils prennent leurs décisions. Ils sont pas obligés d'investir, encore une fois.
D'autant qu'il y en a qui disent, nous, on a déjà plus d'argent, donc on ne peut pas les donner en investissant.
Les gens qui ne veulent pas investir et garder leur argent pour faire autre chose sont tout à fait légitimes et fondés à le faire, ils ont leur raison. Apprenons à responsabiliser les gens, cessons d'être paternalistes. Le risque est une donnée qui est intrinsèque à la vie économique et commerciale. C'est quelque chose avec lequel il faut composer. Je vois pas en quoi le caractère risqué d'une activité nécessite un monopole. Dans ce cas-là, on monopolise tout. Ça n'a pas de sens.
Ce qui justifie le monopole, c'est pas le caractère risqué, c'est le fait que effectivement, le jeu n'est pas une activité dont il est souhaitable qu'elle se développe et qu'elle est souhaitable qu'elle se développe vis-à-vis des jeunes. Il faut naturellement que l'entreprise tienne compte de cette considération. C'est comme un certain nombre, le trafic de drogue, etc. Il n'est pas souhaitable que cette activité se développe. Et donc, ça doit être socialement contrôlé.
Merci à tous les deux. Merci Antoine. Merci aux auditeurs qui ont appelé également et qui ont voté sur les réseaux sociaux. Vous avez voté largement. Alors, ça n'a pas bougé.
Même
s'il y a eu beaucoup de votes pendant aussi le débat, vous êtes non. Très majoritairement, aux trois quarts, voire plus, contre le fait d'être prêt à acheter des actions. Quoique, il y en a qui peuvent être contre la privatisation et puis se dire, finalement, tiens, peut-être que je vais
tenter ma chance.
C'est deux questions différentes.
Oui, c'est vrai.
Est-ce que c'est rentable financièrement et est-ce que c'est socialement souhaitable de privatiser
Bien sûr, et c'est pour ça qu'on avait posé
cette
question.
On peut penser que du point de vue de l'actionnaire, c'est une très bonne affaire parce que c'est une très mauvaise affaire pour l'État.
On
peut être un peu cynique.
En tout cas, renseignez-vous bien. C'est la préconisation.
Faites attention parce qu'il y a énormément de sites frauduleux qui ont été d'ailleurs déjà détectés. Donc, si vous le faites, adressez-vous à un bon spécialiste, comme Antoine. Notre auditeur, il vous a donné d'autres tuyaux. Non, mais plus sérieusement, à votre banquier ou d'autres, vous appelez Henri Sterniak.
Vous allez être reçu, vous allez voir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Azari aussi.
Et dans un instant, on va vous parler médecine avec un grand médecin. Il s'appelle Éric Chesson et ça s'appelle L'arrogance du bistouri aux éditions de Hugo Doc. C'est hyper intéressant. Restez avec nous.
Dès qu'on parle bistouri.
Jusqu'à 10h. Oui, mais c'est pas du bistouri chirurgie esthétique. Non, c'est du vrai bistouri de chirurgien. Ouais. Restez avec nous, 9h46.